Donc, j'ai parlé de la sociolinguistique. Je sais qu'il y a des choses qui sont un peu confuses. Le défi pour moi, c'est que je rentre beaucoup de choses. C'est un survol très rapide. Je rentre beaucoup de choses en peu de temps. Puis aussi, je ne sais pas nécessairement ce que vous avez vu et ce que vous allez voir. Alors, c'est pour ça que je vais très vite et tout ça. Mais une des choses que je veux dire, c'est que j'ai mis l'accent sur le développement de différentes parties de l'anthropologie linguistique. Alors, moi, j'ai tendance à subdiviser la discipline en sociolinguistique et ethnolinguistique, mais le fait est que ces jours-ci, ben, Pierrette est vraiment plus du côté sociolinguistique, Pierrette Thibault, puis John et Kevin sont vraiment plus du côté ethnolinguistique, mais en général, quand même, tout ça s'est mis ensemble, puis c'est différentes parties de la même discipline. C'est des recherches qui sont plus typiques de l'un ou de l'autre. Alors, comme je disais, la linguistique variationniste, c'est très typique de la sociolinguistique. C'est pas que des ethnolinguistes ne peuvent pas en faire, mais c'est quand même comme, moins typique en ethnolinguistique. Et vice-versa, je vais vous parler de ce qui est typique pour l'ethnolinguistique, qui n'est pas nécessairement typique pour la sociolinguistique. Un truc, on a mentionné à plusieurs reprises le structuralisme. Je fais un peu exprès de le mentionner, entre autres en me disant que si vous en entendez parler une couple de fois, sans même avoir une définition, plus tard, quand vous allez avoir une définition, ça va tout se mettre en place. Je sais que c'est frustrant, mais c'est une méthode que j'utilise dans beaucoup de cas, puis souvent, ça marche très bien. Et puis, Roland me disait que dans 2, 3 semaines, 3 semaines, vous allez en fait parler du structuralisme. Donc, je me dis, bien, vous allez avoir été exposé à certains aspects, certaines caractéristiques du structuralisme, entre autres que souvent c'est une vision d'une espèce de structure rigide, où donc il ne s'intéresse pas tellement au changement. Le fait aussi que c'est basé sur un concept d'une structure abstraite et non nécessairement sur la concrétion, le caractère concret du réel, concrétude. Des trucs comme ça. Alors, c'est pas mon but de vous expliquer le structuralisme. Même quand je l'enseigne, ça me prend du temps, là. C'est difficile à expliquer pour toutes sortes de raisons, mais au moins que vous soyez exposé à ça. OK. Donc, je parlais de sociolinguistique. Maintenant, je parle d'ethnolinguistique. Oui, c'est utilisé pour la sous-discipline au complet, au moins ici au département à l'Université de Montréal. Mais pour moi, puis ça, c'est en partie personnel, mais je trouve que c'est une bonne façon de l'expliquer. C'est une branche ou un certain domaine d'études à l'intérieur de l'anthropologie linguistique. Je trouve que c'est plus facile à comprendre quand on le voit comme ça. Donc, l'ethnolinguistique, langue et culture. OK. Mais ce n'est pas exactement comme langue et société, parce qu'on ne dit pas nécessairement, il peut y avoir une association entre un groupe culturel et puis une langue, mais ce n'est pas nécessairement de la même façon. C'est beaucoup d'utilisation de la langue pour comprendre la culture ou de la culture pour comprendre la langue. Alors, utiliser la culture pour comprendre la langue, c'est assez facile à concevoir. Les gens font ça assez régulièrement. Si vous voulez apprendre, supposons, le japonais, ben une bonne façon, c'est d'aller au Japon parce que vous allez probablement forcer de parler japonais au moins une couple de fois et vous allez comprendre certaines choses de la culture japonaise qui vont vous aider à comprendre pourquoi il y a une différence entre le concept, je ne sais pas comment ça se dit, amour en japonais en général, mais je sais qu'il y a un concept qui est amae, puis peut-être je me trompe, mais en tout cas, amae, ça serait l'amour spécifique qu'on a pour quelqu'un qui prend soin de nous. Ça peut être un amour filial ou des trucs comme ça. C'est un concept très spécifique, puis pour le comprendre, ce concept-là, il faut comprendre un petit quelque chose de la culture japonaise, ou en tout cas, ça aide. Ben, les gens font beaucoup des voyages d'immersion pour pouvoir non seulement comprendre une langue, mais vraiment comme développer quelque chose. Puis en même temps, souvent, c'est une excuse pour voyager. OK, ça, c'est bien cool. C'est pas nécessairement ce que l'ethnolinguistique fait, quoique, ça arrive des fois que les gens fassent ça un peu, c'est qu'ils comprennent une langue particulière. Ils font des recherches sur une langue particulière, puis ils se disent, ben là, je comprends pas comment ça se fait qu'ils ont ce concept-là. Tu as des données sur une langue, mais tu comprends pas pourquoi il y a ce concept-là, ou pourquoi il y a cette structure syntaxique-là, pourquoi il y a des constructions passives. En anglais, les constructions passives sont souvent mal considérées. Il faut utiliser le moins possible. Les constructions passives ne doivent pas être utilisées. puis en français, c'est tout à fait normal. Bien, c'est quoi la différence? Pourquoi? Bien, c'est lié à toute une idéologie linguistique. Je vais parler un petit peu d'idéologie linguistique un peu plus tard. Mais c'est lié à toute une conception de ce que le langage donne à l'intérieur d'une culture donnée. C'est non seulement la langue elle-même, mais comme l'utilisation du langage. Puis, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Si tu veux vraiment comprendre une langue, comprendre la culture derrière ça, ça peut être très utile. La plupart des linguistes dans les départements de linguistique ne vont pas faire du terrain dans la culture qui parle, la langue qui étudie. Puis en fait, beaucoup de linguistes travaillent sur leur langue maternelle ou sur une langue qui est très, très commune là où ils habitent. Mais il y a quand même certains linguistes qui font de la recherche sur le terrain, puis de ce côté-là, ils ressemblent beaucoup à des ethnolinguistes. Alors, si on veut, l'ethnolinguistique, c'est un peu de faire de la recherche ethnographique sur le langage, quelque chose comme ça. Mais c'est aussi que le langage, c'est une fenêtre sur la culture. C'est une façon d'arriver vers la culture, de comprendre une culture à travers le langage. On comprend une langue à travers sa culture, mais on comprend la culture à travers non seulement sa langue, mais ses perspectives sur le langage. Il y a des possibilités de ce côté-là. Puis ça, c'est vraiment la base d'ethnolinguistique. Comme j'aime bien parler du développement de la discipline, bien, c'est la même chose pour l'ethnolinguistique. J'ai mentionné Humboldt. Bien, Humboldt lui-même avait un prédécesseur qui était Herder. Et les deux, bien, je les mets ensemble, puis il y a des distinctions, entre autres, historiques très frappantes. Je pense qu'ils sont nés à comme 70 ans d'intervalle, puis je ne pense même pas qu'ils ont pu se rencontrer. Mais dans les deux cas, c'est la fondation de plusieurs idées qui ont donné lieu à l'ethnolinguistique, puis en fait à beaucoup de choses en anthropologie en général. En très grande partie, c'est la naissance du romantisme allemand, puis le romantisme en Allemagne, c'était beaucoup cette notion-là de ce que je mets plus tard de l'esprit de la langue, l'esprit d'un peuple. Et puis la culture, c'est quelque chose qui est vraiment propre à un peuple, et qui est une façon de penser très caractéristique, et puis, ça peut être très philosophique et tout ça, mais au moins, il y a une relation très claire que les gens élaborent, ou élaboraient à cette époque-là, à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle, en fait, pendant une très grande partie du 19e siècle, en Allemagne, sur le rapport entre une langue, un peuple et une culture, puis en fait, même, et une nation. Une nation, là, c'est la nation allemande, même la... Pour certaines personnes, je suis désolé de le dire, mais c'est quand même vrai historiquement, pour certains, c'est même une notion de race, et même pour certains, bien, c'était une race supérieure. Bon, OK, c'est triste, mais c'est quand même arrivé. Puis il y avait cette idée-là qu'à travers la langue, on arrive à retrouver, à travers la langue allemande, on arrive à retrouver l'esprit allemand. OK, c'est intéressant. Mais c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un rapport entre notre façon de penser et notre langue. OK, c'est intéressant. Il y a des points de vue purement cognitifs, mais il y a aussi vraiment quelque chose de culturel là-dedans, là, de se dire, bien, c'est un ensemble de choses qui vont toutes ensemble. Un vrai Allemand, c'est quelqu'un qui parle allemand, puis qui ressemble à un Allemand, puis OK. C'est très inadéquat. Mais c'était une théorie qui existait à l'époque. Mais c'est quand même la base du relativisme linguistique. Comme je disais, le relativisme linguistique a peut-être même influencé Einstein, mais il a certainement influencé Boas. Boas a travaillé à partir de la fin du 19e siècle et beaucoup, surtout dans la première moitié du 20e siècle. Et puis, il était influencé par ça, il est allé plus loin que juste cette idée-là, mais il était beaucoup influencé par ces idées-là relatives au relativisme linguistique. Une des bases du relativisme linguistique, c'est que, et ça, personne ne le met en question, en tout cas des gens qui travaillent dans les études sur le langage, que ce soit des linguistes, des ethnolinguistes, des psycholinguistes, des sociolinguistes, des géolinguistes, si tu veux, tout le monde est pas mal d'accord, à part les profs de langue, que toutes les langues se valent. Puis en fait, non seulement toutes les langues, mais toutes les variétés de langues. Que le français de Tours, de Touraine, qui est considéré comme le français standard, pas que les gens la parlent dans la région de Tours, mais disons que ce qui est le plus proche, c'est ça, ben il vaut pas plus, cette variété-là du français vaut pas plus que le français québécois ou le français guinéen. Ça, pour tout le monde, au moins du point de vue académique, pour tous ceux qui travaillent dans le domaine des études du langage, on est tous d'accord là-dessus. Il y a des gens qui, au moins au niveau individuel, vont dire « Ah oui, mais c'est pas beau, cette langue-là » ou « Ah, quand les gens disent ça, c'est pas beau, tu sais. » Nous, on se base pas sur ce point de vue-là, on se dit « Non, non, que les gens ont des opinions sur les langues, c'est super intéressant, ça fait partie de l'idéologie linguistique, mais que le fait que la valeur elle-même de la langue, ben c'est de communiquer, c'est de pouvoir communiquer. Et de ce point de vue-là, toutes les langues sont équivalentes et ont la même valeur. La valeur, c'est de communiquer. On peut utiliser n'importe quelle langue pour dire n'importe quoi. Puis pas juste n'importe quoi dans le sens que c'est vague, mais dans le sens que toute langue est aussi précise, toute langue est aussi belle, toute langue est aussi logique, et ainsi de suite. Ça, on est tous convaincus de ça. On n'a rien qui nous dit le contraire. Franz Boas, qui a donc été influencé par ça, c'était beaucoup une question de faire la différence entre ce qui est universel, entre autres la biologie humaine, on dit que c'est universel, tous les êtres humains ont la même biologie à la base, et le particulier. Bien, toutes les cultures humaines sont différentes, sont particulières, sont différentes les unes des autres. La diversité et l'unicité, disons. Ça, c'est une des bases fondamentales de toute l'anthropologie nord-américaine. C'est aussi très important en Europe, mais pas de la même façon. En Europe, ils ont tendance à travailler plus sur le point de vue universel ou globaliste ou ainsi de suite. Tandis qu'en Amérique du Nord, on privilégie la diversité ou le particulier contre l'universel. Disons que, d'une certaine façon, on étudie le particulier pour éventuellement comprendre ce qui est universel. Ça, c'est un concept de base que Boas lui-même a emprunté de Humboldt, que Humboldt avait déjà emprunté de Herder, puis qui, dans ce contexte-là, était lié à... Bien, la langue allemande, c'est une langue avec sa propre logique. On peut dire, pour certains romantiques allemands, la langue allemande était mieux qu'une autre, mais déjà, Humboldt lui-même était très, très clair sur le fait que les langues s'équivalaient. Il allait étudier certaines langues, je pense, en Asie, et de voir que, hey, c'est une langue qui est aussi, en Asie de l'Est, en fait, hey, c'est une langue qui est aussi logique que l'allemand. C'est quelque chose qui est assez fondamental à l'époque. Et puis, Boas venait de cette tradition-là. Pour la petite histoire, Humboldt a créé l'Université de Berlin, et c'est là que Boas a étudié. Franz Boas, même si c'est le père de l'anthropologie nord-américaine, il était né en Allemagne, puis il est venu seulement pour des recherches en Amérique du Nord.
Il a même fait sa thèse en doctorat en physique.
Oui, oui, oui.
Donc, il y a une influence dans l'histoire.
Oui, oui, oui. Oui, mais ce n'est pas suffisamment clair que je puisse dire qu'elle est directe.
C'est pas pour rien aussi, ouais. Le relativisme, hein, les deux sont juifs. Ceux qui ont été le plus victimes
ouais. Non, mais c'est vrai.
Culturel de l'ethnocentrisme,
c'est vrai.
C'est
vrai.
C'est les Juifs.
Puis vous avez parlé d'ethnocentrisme?
Non, pas encore.
OK. Je vais te laisser la chance une autre fois. Une des choses que Franz Boas faisait, Boas était un maniaque des données. C'était le genre de bonhomme qui tripait sur l'accumulation de données, le plus de données possible. Amenez-lui des données, t'sais, des textes, amenez-lui des enregistrements, c'était difficile à avoir à l'époque, t'sais, au début du 20e siècle, là, disons en 1912, 1910-1920. Mais il était vraiment maniaque de « Ah oui, prenez des notes, apportez-moi des notes. » Puis lui-même, quand il faisait, c'était pas nécessairement un type de terrain en tant que tel, il en a fait un peu à sa façon, mais il recueillait des histoires, des contes. Des contes de fées, des contes, toutes sortes de fictions et tout ça, mais aussi d'autres types de traditions orales. Des traditions orales qui peuvent être même pas fictives ou qui sont considérées comme réalistes, mais juste comme la façon de décrire, la façon de construire une histoire. Tout ça, lui, il prenait des notes, il enregistrait autant qu'il pouvait, au moins sur papier, il transcrivait tout ce qu'il pouvait. Le plus possible de chaque différente culture. Bien, ça lui venait, ou en tout cas, c'était lié à des philologues très connus, les frères Grimm, Jacob et Wilhelm, il me semble, qui, vous les connaissez en tant que ceux qui ont recueilli tous ces contes de fées-là, qui étaient les Kinder und Hausmärchen, quelque chose comme ça. Mon allemand est horrible, je le sais, mais en tout cas. Pardon? Non. En tout cas, ça peut être certains des mêmes contes. Mais l'idée, c'est que les frères Grimm, ça peut avoir l'air ridicule maintenant, mais pour les frères Grimm, ces contes-là, c'était typiquement allemand. Ça représentait la culture allemande. La raison qu'ils les recueillaient, puis à l'époque, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les contes de fées, c'était prévu pour les adultes, pas pour les enfants. C'était pas pour endormir les enfants, c'était pour parler de certaines choses à travers des fictions. L'humour, c'est la même chose. Des blagues, une blague, c'est de la fiction. Puis c'est prévu souvent pour les adultes, c'est sûr que les enfants en font aussi. Mais les blagues qui se transmettent entre adultes, bien, c'est pour parler d'une réalité. Bien, c'est un petit peu la même chose avec les contes de fées. On savait bien que c'était pas vrai. Mais c'était une façon de parler d'une certaine réalité, détournée, tu sais. Puis il y en a qui sont psychanalytiques là-dessus, mais c'est de dire, non, les gens, ils savaient de quoi on parlait, là. Quand on parlait de Blanche-Neige, il est sept... Non. Mais les frères Grimm, pour eux, c'était typique de, entre guillemets, la race allemande, ou en tout cas de l'esprit allemand, alors que beaucoup de contes de fées qu'on connaît, y compris, je pense, en fait, Blanche-Neige et les Sept Nains, ça vient fort probablement de l'Inde. Ouais, originellement de l'Inde, là, de l'Asie du Sud. Mais ce dont les frères Grimm ne se rendaient pas compte. Arrivé à Boaz, les gens commençaient à se rendre compte que justement des histoires, ça pouvait se transmettre d'une région à l'autre. Alors, on se dit qu'une histoire... Les contes de fées, c'est très complexe en côté structure. Ça ne peut pas être juste inventé de même. Il y a des éléments qui sont inventés. Mais il y a des éléments qui se retrouvent. On les appelle des motifs, en fait. Il y a des éléments qui se retrouvent dans différents contextes, mais la structure elle-même est trop complexe pour qu'on ne puisse pas croire qu'elle vienne d'une origine unique. Donc, des gens, à partir d'une certaine époque, après les frères Grimm, en fait, ont commencé à essayer de retrouver d'où ça venait. Puis, Boas a collaboré avec ces gens-là. Et, en fait, il essayait de voir la diffusion culturelle. Au début du 20e siècle, en anthropologie culturelle, les gens, en fait, une des théories de base, c'était le diffusionnisme, que tout se diffusait à partir d'un centre, comme un trait culturel, que ça soit le mariage avec la cousine croisée matrilinéaire ou que ça soit tel conte de fées, ça part d'un centre puis ça va un petit peu partout. Ça a été remis en cause, mais à l'époque, c'était vraiment ça qui l'intéressait. Et puis, le folklore, en fait, puis c'est la discipline qui officiellement est le nom de mon département en Indiana, le folklore, c'est l'étude de ça un peu. C'est pas obligé d'être des traditions orales, mais c'est l'étude comme ça de choses qui sont transmises. Ça peut être de génération en génération, mais ça peut être aussi géographiquement, et ainsi de suite. Alors, Franz Boas faisait ça, entre autres, et à travers la collecte de traditions orales, comme ça, il essayait de retrouver quelque chose qui liait la langue et la culture. Et comme je disais que Humboldt et Herder voyaient un rapport entre la langue, la culture et la pensée, bien, ça implique aussi un rapport entre la langue et la pensée. Puis c'est là que j'arrive aux Esquimaux. C'est vrai que pour Boas, une des intuitions fondamentales qui est réaliste, c'est que les langues du monde ne divisent pas le monde de la même façon. Comme l'exemple en anglais, c'est « river », puis en français, c'est soit « rivière » ou « fleuve ». C'est un exemple banal, c'est juste avec le lexique. Mais c'est comme le genre d'affaire qui se disait « Hey, c'est vrai qu'ils ne classifient pas les choses de la même façon en différentes langues. » Bien, c'est bien drôle parce que Saussure avait la même idée à la même époque, puis ils ne se connaissaient pas. Mais à travers ça, on se dit, OK, s'il y a juste un terme pour rivière et fleuve dans telle langue, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que pour eux, tous les cours d'eau ont la même existence? Peut-être. Ce qui est pas pire aussi, c'est quand on voit comment les gens classifient à travers la langue différentes sortes d'animaux. Si pour baleine, c'est un terme qui a rapport au poisson, bien, pour ces gens-là, la baleine est un poisson. On sait bien que ce n'est pas vrai. Mais, OK, si le terme est apparenté et tout ça, que ça fait partie d'une classification locale, qu'à travers le langage, les gens classifient les choses de cette façon-là, bien, ça nous dit quelque chose sur eux. Ça s'est beaucoup utilisé ces dernières peut-être 20 ans, en ethnobotanique sur les espèces végétales, comment les gens classifiaient les espèces végétales. Alors, très souvent, surtout en Amérique du Sud, chez les populations autochtones d'Amérique du Sud, ça va être par rapport à leur utilisation médicinale et ainsi de suite. La classification biologique est aussi valide, mais elle n'est pas nécessairement plus. La classification en fonction de l'utilité peut être encore plus importante. Ça nous dit quelque chose sur les utilisateurs de ces plantes-là. L'intérêt de la biologie, pour eux, ça peut être un petit peu moins. Oui?
Est-ce que ça ne vient pas en contradiction avec le fait que vous dites que les langues sont toutes pareilles?
Non, je n'ai pas dit qu'elles étaient toutes pareilles. Bonne question. La réponse est non. Les langues ne sont pas toutes pareilles. Elles sont très différentes. Ça, c'est très important de voir qu'elles sont très différentes. Elles ne divisent pas le monde de la même façon, mais elles se valent toutes. Alors, si je veux décrire une baleine, puis je veux dire que ce n'est pas un poisson, je peux dire « baleine, mais ce n'est pas un poisson ». Tu sais, on peut décrire, on rajoute des qualificatifs et ainsi de suite. On peut tout dire. On peut expliquer ce qu'est un ordinateur en Bamana. J'aurais de la difficulté à le faire un petit peu parce que ça tombe peut-être dans du vocabulaire un peu particulier, puis il faudrait vraiment que je sois en immersion complète et tout ça. Mais à la rigueur, des gens peuvent le faire. En hébreu, il n'y avait évidemment pas de terme pour l'électricité qu'on utilise dans nos prises électriques et tout ça. Mais à ce que j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que les termes pour l'électricité, ils ont utilisé des termes qui venaient de la terminologie sur les éclairs. Ben, il y a une logique derrière ça, en quelque part. Mais peu importe que tu utilises un terme qui existait déjà dans ta langue ou que tu utilises le terme électricité ou que tu utilises musique. Ça, ben, évidemment, comme ça me touche personnellement, je suis musicien et ethnomusicologue. Dans beaucoup de langues du monde, il n'y a pas de terme pour musique. Oui, puis ça veut-tu dire qu'on ne peut pas parler de musique? Non. Ça veut dire qu'en Afrique, dans la plus grande partie de l'Afrique, au moins en Afrique de l'Ouest, ça c'est très, très clair, dans la plupart des cultures, dans la plupart des groupes d'Afrique de l'Ouest, musique n'est pas séparée de chant, n'est pas séparée... Non, en fait, non. Musique ne couvre pas juste ce qui est sonore à l'exclusion de la danse et ainsi de suite. Il y a des genres spécifiques, alors tu peux avoir différents types de musique qui sont décrits, mais pour parler de la musique en général, mais par exclusion avec la danse et le théâtre et ainsi de suite, ce que les gens, au moins au Mali, ils disent « musiki ». Puis le terme « musique » de différentes formes a été emprunté tel quel pour décrire quelque chose qui, en fait, n'était pas une catégorie pour eux. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas capables de comprendre. C'est que « ah oui, ok, c'est vrai ». Tu définis ça comme un art sonore, OK, ben maintenant je comprends c'est quoi, on peut l'utiliser. Tu sais, Coca-Cola n'existait pas, ben c'est pas un bon exemple. Supposons cola, un cola, ça n'existait pas dans aucune culture, en fait, ça a été quand même une invention. Les noix de cola existaient en Afrique de l'Ouest, mais ils ont fait une invention. Ben maintenant, tu sais, on a besoin d'un terme pour cola, ben on va l'emprunter. T'sais. On n'a pas besoin d'inventer un nouveau terme, on ne va pas nécessairement le décrire. On peut tout dire dans n'importe quelle langue, mais les langues elles-mêmes ont une différente structure. Alors, ça peut être par rapport à la terminologie. Puis c'est beaucoup ce qui influençait Boas, c'est que la terminologie était différente. Il y a quelque chose qui était encore plus intéressant pour Boas, c'est qu'on regarde, par exemple, un exemple qui est pas mal souvent utilisé, les langues bantoues que j'ai mentionnées plus tôt, desquelles le Bamana ne fait absolument pas partie, c'est très, très, très distinct. Mais les langues bantoues ont ce qu'on appelle des classes nominales. Une façon de les expliquer, souvent les gens disent « ouais, c'est comme s'il y avait masculin et féminin, mais il y en a 16 ». Comme il y a juste deux sexes. Oui, mais en fait, les deux sexes, c'est la même catégorie. Hein? OK. C'est que les êtres humains sont dans une classe. C'est pour les locuteurs francophones, c'est plus ou moins facile à expliquer. C'est exactement la même chose que le genre au point de vue syntaxique. À chaque fois que tu utilises un mot dans la phrase, il faut que tu accordes avec la classe nominale. Comme tu accordes au féminin ou au masculin en français quand tu utilises n'importe quel mot, tu sais, comme le sujet de la phrase et tout ça. Alors, Dans ce cas-ci, c'est pas masculin ou féminin, c'est, ça peut être animé, inanimé, ça existe aussi dans des langues autochtones. Ça peut être des langues où vont avoir une classe particulière. Quand vous entendez Kiswahili ou Chichewa, ben le ki ou le chi, ça veut juste dire langue. Puis après, tous les mots de la phrase vont avoir ki, Kiswahili, puis s'il y a un verbe qui serait ploumi, ben ça serait Kiswahili, Kiploumi, ki, ainsi de suite. Tu répètes constamment le même morphème, le même petit bout de mot, le même préfixe, pour dire que c'est accordé avec tel mot. Mais ça fait bizarre, ça. Il y a 16 classes qui, masculin et féminin, sont ensemble. Qu'est-ce que ça implique au niveau des rapports hommes-femmes? Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça implique? Puis en fait, en français, qu'est-ce que ça implique au niveau des rapports hommes-femmes qui est masculin et féminin? Ça dépend du contexte, mais il y a peut-être une influence. Puis, Boas se posait des questions là-dessus. Surtout que ces catégories-là sont obligatoires. À chaque fois qu'on dit une phrase en français, on doit obligatoirement, en fait, surtout quand on l'écrit, on doit obligatoirement dire le genre de chaque chose qu'on décrit. Si tu ne sais pas, un exemple pratique, là, tu es en train d'écrire un texte où tu parles d'un auteur, mais l'auteur a un nom qui peut être, supposons que c'est Dominique Flammarion. Ben Dominique, est-ce que c'est un homme ou une femme? Je ne sais pas. Ben là, tu vas voir, puis là, tu dois dire... Elle disait que, ou il disait que. Tu es obligé à chaque fois. Puis en traduction, il faut absolument que tu ailles faire ça, parce que tu ne peux pas juste dire, tu sais, dans l'abstrait. Là. Alors, ça s'applique à chaque fois. Est-ce que ça veut dire qu'on est obsédé par le sexe, les francophones? Je ne sais pas. Mais ça veut quand même dire qu'on a une certaine, au niveau purement cognitif, au niveau de notre cerveau, il y a peut-être quelque chose qui se passe là. Puis ça, pour Boas, au début du 20e siècle, il a un peu abandonné ça par la suite, mais au début du 20e siècle, en fait, en 1911, il écrivait un texte dans lequel il parlait de ces catégories obligatoires-là, et entre autres des genres, et entre autres de ce qu'on appelle les évidentiels. Les évidentiels, ça, c'est quelque chose, c'est encore le même principe que chaque morphème de la phrase, chaque mot de la phrase doit porter un préfixe ou un suffixe, je ne sais pas, une marque pour dire l'origine de l'information. La phrase... « Jean mange une pomme » va avoir une forme différente si c'est « Jean mange une pomme et je sais parce que je l'ai vu » ou est-ce que j'ai rêvé que Jean mangeait une pomme ou on m'a dit que Jean mangeait une pomme. Évidemment, on peut spécifier dans n'importe quelle autre langue « J'ai rêvé que Jean mange une pomme ». Mais juste par ces « Jean mangerions une pomme », ça voudrait dire « Jean mange une pomme en ce moment », mais... La façon que je le dis, pourquoi je le dis, c'est parce que je l'ai rêvé. Fait bizarre. Un peu. Puis, c'est encore là, c'est pas une impossibilité dans d'autres langues, mais c'est dans ces langues-là qui ont des évidentiels. Entre autres, je pense le tibétain, là. Je connais des gens, en fait, qui travaillent sur les évidentiels. Puis il me semble qu'il amenait les Tibétains, non pas pour sauver le Tibet de la Chine, mais pour parler d'évidentiels. C'est pas anodin. Il y a quelque chose, là, au point de vue purement cognitif, là, puis même philosophique, qui est assez intéressant. Puis ce que Boas disait, c'est, ouais, il faudrait bien regarder, il y a peut-être des différences entre, au point de vue culturel, mais même au point de vue cognitif puis intellectuel, pas de capacité intellectuelle, mais d'habitude intellectuelle, entre les gens à partir de ça. Oui?
Oui, pouvez-vous reprendre la définition d'évidentiel, s'il vous plaît?
Donc, c'est des catégories, comme pour le genre, j'essaie de l'expliquer plutôt que de donner une belle définition, comme pour le genre, c'est une catégorie obligatoire qui nécessite pour un locuteur de spécifier la source d'une information. Ça serait très, très pratique pour plusieurs journalistes. Et puis le détail est, bon, déjà c'est fascinant en soi, mais le détail est moins important que le fait que ça a donné lieu à toutes sortes de débats. Et puis le truc du milieu ici, The Great Eskimo Vocabulary Hoax, ça vient du fait que dans un texte, notre cher Boas a dit quelque chose à propos de la terminologie Inuit sur la neige. Ben, il ne disait pas qu'il y avait tant de mots pour la neige. Si vous relisez le texte, là, c'est pas ça qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'il existe différents termes qui sont pas apparentés. Et en fait, la langue inuit, le Nuktitut, est globalement là, très généraliste. Il n'y a pas des mots très, très spécifiques pour plusieurs catégories. On utilise un mot, puis après, il y a plusieurs autres adjectifs qui viennent se rajouter à ça pour décrire. Alors, plutôt que dire « neige tombée », ben c'est juste un mot qui va vouloir dire « neige tombée ». En fait, ce n'est pas exactement ça techniquement, mais c'est comme « ouais, OK, il existe un terme qui s'applique plus spécifiquement à la neige qui est tombée sur le sol par rapport à la neige qui descend ». Il philosophait là-dessus. Mais après, les gens ont commencé à triper là-dessus puis à se dire « Ouais, en Inuktitut, il y a 225 mots pour la neige, ça prouve que pour eux, la neige, c'est important. » OK, regarde, là, il y a 225 mots pour des types de fourmis dans d'autres langues. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont obsédés par les fourmis? Non. Ça veut dire que les langues sont différentes elles-mêmes puis que la structure elle-même de la langue va impliquer certaines choses. On ne sait pas exactement c'est quoi à ce moment-là, mais que ça donne à être étudié. Et puis ça, je le mentionne parce que souvent, quand les gens parlent d'ethnolinguistique, c'est la seule chose qu'ils disent, puis ils se trompent, mais sur toute la ligne, ils disent que Boas pensait que les gens ne pouvaient pas avoir, pouvaient pas comprendre un concept d'une autre langue parce qu'il n'y avait pas les mêmes... Non, pas du tout. Ils pouvaient très bien comprendre. C'est juste que la structure elle-même avait... possiblement une influence sur d'autres choses. Un exemple que j'aime bien utiliser pour revenir au genre, c'est ben, masculin et féminin. Est-ce que ça a de l'importance dans la vie de tous les jours? Est-ce que ça a de l'importance pour moi que table, ça soit féminin? Pour moi, ce n'est pas un objet très particulièrement féminin. Tu sais, je veux dire, ça pas, je ne sais pas d'où ça vient exactement. Ça vient plus de la structure elle-même de la langue que d'une association de la table avec la femme. Mais non, sérieusement, il y a des cas où, par contre, oui, il y a des associations très claires entre le genre féminin et la féminité, mais ce n'est pas le cas pour la table. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir deux classifications et puis voir si elles sont parallèles ou non. Puis une des façons de voir ça, ben, c'est par exemple la poésie. Comme vous le savez, en allemand, il y a trois genres, masculin, féminin et neutre. En français, c'est masculin, féminin. Ben, le genre féminin est utilisé pour le soleil en allemand et le genre masculin est utilisé pour la lune. Ou c'est peut-être neutre pour un des deux, je ne sais plus, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, si on traduit un poème de l'allemand au français puis il parle de la lune, ben, il faut qu'on change le genre de la lune. Puis, comme vous le percevez peut-être, beaucoup de poèmes sur la Lune lui assignent justement souvent une qualité féminine. C'est vraiment « Madame la Lune » et tout ça. Alors que c'est « The man in the moon » en anglais, mais c'est comme... Ça fait partie un petit peu de nos notions qu'on a. T'sais. Puis si on parle de la chatte, on parle vraiment de quelque chose de très féminin. Puis quand on parle d'un chat, il y a quelque chose de... Donc si on va à l'encontre de ça, si on commence à dire « Monsieur le Lune », puis on fait un poème là-dessus... Ça a l'air bizarre, mais ça fait justement comme « Oh, ouais, quelles associations on a réellement, tu sais? » Puis c'est un petit peu, pas pour faire de la psychanalyse, là, c'est peut-être un petit peu inconscient, mais il y a un petit quelque chose là-dedans là, qui peut impliquer les différences au niveau créatif, au niveau symbolique. Oui?
Oui, jusqu'à quel point on est obligé de respecter ça dans la langue, sans la trahir?
Très simplement. Quand on trahit la langue, ça paraît tout de suite. Alors, donc, ça crée un effet. Quand ça crée un effet, ça peut être utilisé pour des besoins créatifs, donc artistiques et tout ça. C'est pas un problème. On a le droit de trahir la langue. Mais quand on la trahit, ça a un effet. Si on trahit le genre en anglais, puis que, en fait, je voulais dire la chatte, mais j'ai dit juste cat, il n'y a pas de trahison possible, tu vois. Et si on ajoute quelque chose, ça va créer un effet qui va amener notre parole à un autre, en guillemets, niveau, au niveau, si on veut, artistique ou imagé. Dans la vie de tous les jours, on parle énormément, puis on ne les trahit pas, ces catégories-là. Parce que sinon, la personne va faire, ben, comme la blague, un anglophone et un francophone qui sont ensemble, puis l'anglophone dit « Oh, regarde, un mouche! » Ben non, c'est une mouche. T'as de bons yeux. Toujours est-il que les catégories comme ça, est-ce que ça a une influence sur nous ou pas? La question est valable. Si on les trahit, c'est là qu'on le voit plus, que ça peut avoir un effet. Ça évoque quelque chose d'autre. Si je dis « le lune », la lune devient un personnage masculin. Elle n'est pas juste pas féminine, elle devient un personnage masculin, en quelque part. Ou si j'amène « le lune » est doux et maternel, il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau qui viole des attentes qu'on a. Ce qui peut être très bien, mais ça ne se fait pas dans la vie de tous les jours, parce que, à moins qu'on se trompe, parce que, bon, on a inculqué, c'est très évident pour nous que c'est la table. Il n'y a pas un francophone qui va penser, je me rappelle plus, c'est-tu la table ou le table? Ben non, voyons, c'est évident. Oui?
Est-ce qu'il y a des conclusions déjà
Il y a des conclusions hâtives qui se tirent abondamment par beaucoup de monde, pas nécessairement des ethnolinguistes, c'est souvent des gens qui... Non, mais on utilise ces concepts-là pour comprendre autre chose. C'est un peu comme, tu sais, je suis encore dans le développement de la discipline, puis ça nous aide à concevoir le langage comme plus que juste quelque chose qu'on utilise pour communiquer. Puis c'est de dire que, oui, on peut communiquer exactement les mêmes choses dans toutes les langues, mais la façon qu'on communique, ça a déjà de l'importance. Bien, ça, c'est une intuition fondamentale de l'ethnolinguistique. C'est que la façon qu'on dit quelque chose va avoir de l'influence sur la façon qu'elle est comprise. Puis bon, on pourrait parler, c'est pas de l'intonation, le fait que les gens du sud des États-Unis disent la plupart de leurs phrases avec une intonation de question. I'm going to the store. I will get some milk. Puis là, les gens du nord font comme, are you sure? Tu sais, t'es... J'écoutais un podcast, une balado-diffusion, justement enregistrée par des gens du Sud qui sont professeurs de langue et qui est très intéressant, ce qui s'appelle « The Word Nerds ». Et qui porte donc sur toutes sortes d'aspects du langage. Puis il parlait exactement de ça, c'est que les implications que ça a, que si les gens du Sud parlent toujours avec une intonation, ils appellent ça « upspeak » parce que c'est vraiment l'intonation montante, à chaque fois, est-ce que tu penses que ça a une influence sur la façon qu'ils sont perçus? Peut-être. Bien, d'après eux, leur rapport avec les gens du Nord sont influencés par ça. Bien, ça, c'est une donnée intéressante. Mais au départ, les gens qui comprennent mal « boas » et ainsi de suite, ont l'impression que ça veut dire que les gens sont pognés dans leur langue. C'est pas ça. C'est que la langue est une ressource, puis on l'utilise à différentes façons. On l'utilise poétiquement, on l'utilise pour la poésie, on l'utilise pour parler, pour donner une conférence, pour écrire une lettre d'amour, et ainsi de suite. C'est à différents usages. Edward Sapir, c'est donc un étudiant de boas. Et c'est le premier, en fait, à vraiment être lui-même un ethnolinguiste. Il faisait de l'ethnolinguistique, puis il a vraiment été surtout connu pour ça. Il a fait un petit peu d'autres études, y compris sur les systèmes de parenté. Mais il est vraiment connu pour avoir été un ethnolinguiste, puis il allait chercher des données sur le terrain. Boas adorait ça. Fait que lui, c'est ça, il allait faire des grammaires de différentes langues autochtones d'Amérique du Nord. Puis, il est venu, en fait, au Canada beaucoup pour ça. Il a même travaillé à un musée à Ottawa, je ne me rappelle plus lequel. Mais disons que c'est ça, il allait dans différentes régions, puis il prenait le plus de données possible sur différentes langues, puis après ça, il faisait une grammaire. Mais plutôt que faire une grammaire en disant la copule dans cette langue-là, la copule, c'est un terme là, de linguistique latine, en fait. Bien, la copule, dans cette langue-là, ça se fait de cette façon-là. Leurs verbes sont marqués de telle façon. Bien, ils ne tenaient même pas pour acquis que c'était un verbe. Est-ce que c'est vraiment un verbe ou un adjectif? Dans d'autres langues, ça peut être très difficile à savoir. Puis, à un certain moment, c'est comme s'il y avait des langues où il n'y avait pas de verbe. Parce qu'ils sont tellement différents, puis ils ne se comportent pas de la même façon. La structure elle-même du langage... Puis de se dire, bien, plutôt qu'appeler ça un verbe, pourquoi on n'appelle pas ça comme on décrit ça dans ce que c'est dans cette langue-là? Parce que c'était des langues qui étaient tellement différentes de celles qui ont été utilisées pour décrire ces langues-là. Donc, les langues européennes qui sont utilisées pour décrire les langues amérindiennes sont tellement différentes les unes des autres. C'est pas qu'ils commençaient à faire une grammaire Hopi du Hopi, mais ils utilisaient les catégories ou les explications locales sur la langue elle-même. Est-ce que tu avais une question?
Non? Juste-tu dans le temps, c'est quelle année?
Bon, donc Boas, surtout la première moitié du 20e siècle, mais le livre, là où il parlait des mots esquimaux sur la neige, c'était 1911. Édouard Sapir a écrit son livre le plus important en 1923, qui s'appelait Language, puis qui préfigurait énormément de choses qui se sont faites en étude du langage, mais pas en linguistique. Déjà là, ça commençait à se séparer les deux approches. Puis enseigné à Yale pendant une certaine époque, je pense autour des années 30, peut-être même 40. Non, 30, je pense.
Quelle année son livre?
23.
23? Mm-hmm.
Donc, c'est ça. C'est l'idée, à ce moment-là, de faire une grammaire utilisant leurs propres catégories, leurs propres règles, puis plutôt que dire, ah, ben ils utilisent la copule ou ils utilisent le cas... ou l'aspect un tel, et ainsi de suite, que ça soit le mode subjonctif, ben non, c'est, il explique exactement comment c'est fait, la structure elle-même, dans cette langue-là, ce qui implique aussi que, plutôt qu'imposer nos propres idées sur la langue, on prend les idées qui sont présentes dans cette langue-là. C'est un détail, mais ces recherches étaient basées sur la grammaire de la phrase et non sur la grammaire des mots eux-mêmes. Ça a du sens parce que dans beaucoup de langues amérindiennes, un mot est presque comme la structure d'une phrase. Un mot qui a beaucoup, beaucoup de préfixes et de suffixes, si vous voulez. Puis ce mot-là, un mot va pouvoir dire plusieurs choses en même temps. C'est assez courant dans les langues amérindiennes. Donc, plutôt que faire comme « Ah, ben le mot va prendre telle conjugaison », non, on se base sur la phrase dans son ensemble. Whorf, c'était un gars qui se tenait avec Sapir. C'était pas nécessairement un étudiant de Sapir, mais c'était un gars qui se tenait avec lui, tu sais, et qui était beaucoup intéressé par les travaux de Sapir. Lui-même était actuaire. Il n'était pas linguiste ni même anthropologue de formation. Puis, il s'est beaucoup intéressé, il a été fasciné pour toutes sortes de raisons par le rapport entre la langue et la pensée. Puis, c'est lui qui, à un moment donné, a dit des choses qui étaient un peu extrêmes, juste un peu fortes, sur les rapports entre la langue et la pensée. Puis c'est lui qui disait des choses comme « la langue influence la pensée ». Comme la pensée qu'on a, là, la façon qu'on pense est influencée par la langue. Bien, ça, tout le monde est d'accord. Mais à un moment donné, certaines des choses qu'il a écrites ont été interprétées comme voulant dire que la langue déterminait la pensée. Puis là, tout le monde arrête. Tout le monde se dit « ben non, la langue détermine pas la pensée ». Il y a un rapport entre les deux. On essaie de le voir, mais ce n'est pas aussi fort que ça. Je mentionne Whorf parce que je sais que beaucoup de gens qui ne sont pas ethnolinguistes vont parler de Whorf comme une figure de l'ethnolinguistique, mais ce n'est pas une figure centrale. Puis il n'y a pas eu tant d'influence que ça à l'intérieur de l'anthropologie linguistique et pas à l'intérieur de l'ethnolinguistique. Donc, toujours dans l'ethnolinguistique, quels sont certains de leurs champs d'études? Qu'est-ce que les gens font en ethnolinguistique? Bien, globalement, ils essayent de voir ce que le monde fait avec leur langue, puis avec le langage en général. À quoi ça sert le langage? Ça sert à communiquer. OK. Ça sert aussi à s'identifier. Je fais très exprès de garder mon accent québécois, même quand je vais en Europe, parce que je m'identifie en tant que Québécois. Quand j'étais jeune, j'avais un accent européen, et les gens me traitaient de maudit français, fait que je me suis dit, non. Je suis pas un maudit français, je suis pas français. Je vais essayer d'apprendre le québécois. Bien, ça nous identifie. C'est quelque chose que les gens font avec le langage. Aussi, ce que les gens font avec le langage, bien, c'est s'exprimer. S'exprimer et communiquer, ce n'est pas exactement la même chose. Si tu chantes tout seul dans la douche, là, tu t'exprimes, mais est-ce que tu communiques avec qui? Avec toi-même? Non, tu t'exprimes. Puis, en chantant, bien, ça peut être juste des marmonnements, mais ça peut être aussi comme du langage. Aussi... C'est ça. C'est utiliser le langage pour faire beaucoup d'autres choses. Et aussi pour même prendre le contrôle d'un groupe. Si on impose une langue à tout le monde, par exemple, l'anglais a été imposé dans l'ensemble des États-Unis, entre autres en Louisiane. Donc, les descendants des Acadiens, qu'on a appelés les Cajuns, bien, ils ont été obligés d'abandonner leur langue, de la même façon que les Mohawks ont été obligés d'abandonner leur langue parce qu'ils se faisaient taper sur les doigts ou même plus s'ils parlaient le Mohawk dans un cours d'école. Donc, on utilise la langue pour, tu sais, comme tenir les gens aussi. On fait beaucoup de choses avec la langue. Puis, Hors de l'anthropologie linguistique, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, mais le langage peut faire beaucoup de choses. Des exemples de base qui ont l'air anodins, mais qui sont assez intéressants, c'est que, dépendamment de qui parle, la phrase « et je vous prononce, et vous êtes maintenant mari et femme » ou « je ne sais même pas en français, quand je me suis marié, c'était même pas, ils ont même pas dit ça. Non, mais c'est vrai. Ouais, je vous déclare mari et femme, je vous prononce. En tout cas, cette phrase-là, prononcée par une personne particulière dans un contexte particulier, a l'effet d'unir des gens par les liens sacrés du mariage. La phrase elle-même. Puis il faut que ce soit une personne particulière qui la dise, parce que si je l'énonce comme ça, juste de même, ça n'a pas cet effet-là, vous n'allez pas être soudainement marié. Mais c'est un pouvoir de la langue, ça. C'est de faire des choses avec la langue. Et « je te somme de ranger ta chambre », bien, ça a un effet, c'est un ordre. Il y a quelque chose là-dedans qui est un effet. Donc, c'est assez anodin, mais ça montre quand même que le langage a du pouvoir. Et puis, comme je disais, on peut utiliser différentes langues, différentes variétés linguistiques pour influencer les gens de toutes sortes de façons. L'art verbal, c'est toute forme créative, en fait, qui a rapport au langage, que ce soit même des langues signées, ou que ce soit des langues orales, ou que ce soit des langues écrites. Mais c'est quand même centré, l'étude de l'art verbal, c'est centré sur l'oralité, sur tout ce qui est oral. Alors, la poésie, mais aussi les mythes, aussi des chansons, le rap pourrait être utilisé dans l'étude de l'art verbal. Et d'une certaine façon, ce n'est pas obligé d'être artistique dans le sens auquel on l'entend habituellement. Ça peut être utilisé du symbolisme du langage pour des besoins particuliers. Ben, un des exemples typiques, c'est la publicité. La publicité utilise beaucoup le langage pour créer des effets. Ben, en créant des effets, c'est donc justement une utilisation du langage qui a rapport avec tout un domaine culturel. Et puis, en contexte, on comprend ce qu'il y a derrière des slogans publicitaires, par exemple. Puis la forme du langage a de l'importance. Roman Jakobson, que j'ai mentionné plus tôt, a fait un article sublime dans lequel un des exemples qu'il utilisait, qui est tellement simple mais tellement efficace, c'est le slogan politique « I like Ike ». Ça veut dire « j'aime ou j'apprécie Eisenhower ». Puis Eisenhower, son surnom, c'était Ike. « I like Ike ». Juste la façon que ça se dit, ça n'a pas la même forme, puis c'est pas aussi accrocheur si je dis « j'apprécie bien Eisenhower » ou « I like Ike ». Alors, juste en s'en rappelant comme ça, ça a beaucoup d'influence sur ce dont on va se rappeler, puis ce qui a de l'importance pour nous. Si, je ne sais pas si pour vous, mais pour moi, souvent, je vais me rappeler de paroles de chansons. Bien, les paroles de chansons sont créées d'une façon qui va être facilement mémorable. Et ça, en tant que tel, ça a énormément d'importance. Je l'ai mis là, l'ethnopoétique, c'est le nom qui est beaucoup utilisé ici, c'est entre autres ce que John Levitt fait ici, mais c'est donc pas juste l'étude de la poésie, mais tout ce qui est poétique dans le sens que la forme linguistique a beaucoup d'importance. Puis ça mène après vers l'anthropologie symbolique, qui est beaucoup plus vaste que seulement le langage, puis ça inclut des fois la musique elle-même ou même les arts visuels et ainsi de suite, la gestuelle, même la nourriture, nos perceptions de la nourriture, et ainsi de suite. Mais il y a quand même un lien assez étroit entre l'anthropologie linguistique et surtout l'ethnopoétique et l'anthropologie symbolique. L'idéologie linguistique, c'est donc... évidemment, vous le pensez comme une définition. C'est les idées que les gens ont dans une communauté donnée sur le langage et sur les langues. Alors, ça peut comprendre la notion que l'espagnol, c'est une belle langue. Alors, dans notre idéologie linguistique, en tant que francophone, on trouve que l'espagnol, c'est beau. Il y a eu, pendant un certain temps, l'idée que le français était logique, plus rationnel que d'autres langues. Puis, on pense pas nécessairement comme ça maintenant, mais il y a des choses comme ça qui existent. Ça contient aussi, tu sais, des différences entre différentes variétés, différents dialectes. le québécois est plus viscéral que le français. OK, tu parles de quelle variété du français? Est-ce que le français parlé par des gangs de rue dans les banlieues parisiennes peut être assez viscéral, merci. Mais les gens ont des idées comme ça sur le langage. Mais ça, ça va jusqu'à... Puis ça, ça passe beaucoup par des idées sur les personnes à travers leur langue. Et ça va aussi justement dans les rapports entre langue et pensée. Des gens peuvent se dire, hey, « Hé, regarde, ils parlent, ils utilisent masculin et féminin, donc ils doivent penser que hommes et femmes sont distingués par tel critère. » Et ça doit vouloir dire qu'une table, finalement, c'est plus féminin. C'est souvent par rapport de la part des gens d'une autre communauté linguistique qui vont faire des commentaires sur celle-ci. Je passe un peu vite parce qu'il ne me reste pas énormément de temps, mais je pense quand même que vous saisissez un petit peu le sens global de ce que ça peut être. Et puis donc, on étudie ça. On étudie quels sentiments les gens ont par rapport à leur langue, comment ils pensent leur langue. En quelque part. Puis en fonction de pensée, bien c'est ça, je parlais beaucoup de cognition. Comment on pense? Bien, c'est difficile de savoir comment on réfléchit. Il y a un niveau méta, là, c'est comme de réfléchir à notre réflexion, c'est pas facile. Mais le langage nous aide énormément à voir comment on réfléchit. L'anthropologie cognitive comme telle, en tant que terme, ça a été utilisé beaucoup pour parler justement de l'ethnobotanique et puis d'autres études, des classifications en guillemets indigènes ou locales, d'espèces végétales ou d'espèces animales, ou même que ce soit des particularités de l'environnement. Mais c'est l'idée, en général, c'est de se dire, on essaie de rentrer dans la tête des gens puis voir s'il y a des différences en différents groupes humains par rapport à leur façon de réfléchir. Je vais passer par-dessus une couple d'affaires, y compris culture et texte, juste pour dire que... comme Boas qui s'intéressait beaucoup aux données, ben nous, on s'intéresse en général beaucoup aux textes de la culture. Ce n'est pas obligé d'être des textes écrits, mais c'est les produits culturels avec une espèce de base langagière ou linguistique. Pour ramener tout ça ensemble, c'est un petit peu comme mon punch de dire que l'anthropologie linguistique, maintenant, c'est tout ensemble. La sociolinguistique, l'ethnolinguistique, mais aussi l'étude de la linguistique diachronique, même d'une certaine façon l'origine et l'évolution des langues, la physiologie humaine par rapport au langage, on étudie un petit peu tout ça. Et ce qui est commun à toute l'anthropologie linguistique, mais qui est en fait commun à toute l'anthropologie, c'est une approche interdisciplinaire. On va aller chercher les données de linguistique quand on en a besoin, ou de géographie, ou de psychologie, ou de philosophie. Comme certains disent, l'anthropologie s'amène à tout à condition d'en sortir. Alors, on part d'un point qui est, on a une connaissance de l'anthropologie, donc on peut parler de beaucoup de choses. Puis dans ce cas-ci, l'anthropologie linguistique, c'est qu'on pose des questions vraiment de base sur le langage et les langues. Une des bases de n'importe quelle étude du langage, puis c'est quelque chose qui est très important dans toute l'anthropologie linguistique, c'est que les langues sont diverses. Et... comment on les énumère? Bien, c'est un peu difficile. Je mets le nombre de langues, la question du nombre de langues. Parce que ça, c'est en fait une des premières questions que n'importe quel étudiant dans un cours de linguistique ou de n'importe quelle science du langage va poser. C'est combien il y a de langues dans le monde? La réponse, c'est essentiellement, on ne le sait pas. La réponse qu'on donne, parce que ça, c'est pas très satisfaisant, c'est entre 4000 et 6500. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Bien, est-ce qu'on veut dire qu'il y a entre 4000 et 6500 dialectes? Non, en fait, il y en a probablement beaucoup plus que ça. 4000 et 6500 langues, bien, qu'est-ce qu'on veut dire par langue? Bien, par langue, on veut dire un système qui est distinct de d'autres systèmes. Ouais, comment tu les distingues? Bien, le critère, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler l'inter-intelligibilité. L'intercompréhension. Est-ce que c'est intelligible de l'un à l'autre? Ce n'est pas individuel. Je ne dis pas, moi je suis locuteur portugais, un locuteur portugais qui va dire, moi je comprends l'espagnol, donc l'espagnol et le portugais c'est la même langue. Ben non! Parce que les locuteurs espagnols, en général, ne comprennent pas le portugais. Ou en tout cas, ce n'est pas facile. Peut-être en essayant bien, bien fort, on peut réussir. Puis il y a des cas aussi que c'est vraiment la même langue, mais en fait, quand quelqu'un entend quelqu'un d'autre, ne va pas être capable de comprendre. L'exemple évident, c'est des Français qui sont au Québec, mais qu'est-ce qu'il dit? Ils comprennent rien. Mais cette différence-là, est-ce que ça veut vraiment dire que c'est deux langues différentes? Non, pas vraiment, parce que tous les Québécois peuvent comprendre le français, disons, standard. Ça ne veut pas dire que tous les Québécois peuvent comprendre le français du sud de la France, ou peut-être même le normand, même si le français québécois vient beaucoup de la Normandie, alors que le français acadien vient surtout du Poitou. Mais, tu sais, on se comprend. On finit toujours par se comprendre. Un des problèmes qu'on a, c'est que, comme distinguer les langues, ça peut avoir des influences sur la distinction entre groupes, puis même des distinctions politiques. C'est important de distinguer les langues, mais les gens utilisent des critères non linguistiques aussi à travers ça. Alors, ils vont dire les langues scandinaves sont distinctes les unes des autres, le suédois, le norvégien et le danois. Bien, de ce que j'ai vu, pour avoir entendu des Scandinaves parler entre eux, en fait, littéralement un Danois, un Norvégien et un Suédois, parler entre eux, ils parlaient de façon tout à fait, j'allais dire fluent. J'enseigne surtout en anglais, fait que c'est facile pour moi, mais tout à fait avec beaucoup de fluidité. Et ils avaient l'air de se comprendre très, très bien. Puis, à d'autres moments, beaucoup de linguistes disent qu'essentiellement, c'est la même langue. Mais pour des raisons politiques, on dit que c'est des langues différentes. Alors, on dit qu'un dialecte, c'est une variété régionale. À l'intérieur d'une langue, tu as différents dialectes qui sont distingués par des différentes régions. Bien, une langue, pour certains, puis ça, c'est un peu une espèce de blague, mais c'est pour donner cette idée-là politique, c'est qu'une langue, à ce moment-là, c'est un dialecte avec une armée. Et c'est que le dialecte qui a son armée, donc le dialecte standard, qui est celui de ceux dont de la région qui a le pouvoir à travers une nation, entre guillemets, et ce dialecte-là va être celui qui va être considéré comme standard pour l'ensemble du groupe qui parle la même langue. En français, le français standard, il vient de France, pas du Québec. On a une armée aussi, mais elle n'est pas à nous autres, à part le Royal 22e, en tout cas. Je suis encore là. Mais c'est un peu cette notion-là qu'il y a des données politiques qui rentrent en ligne de compte. Puis plutôt que de vraiment faire la différence entre langues basées sur l'interintelligibilité, on trouve que des fois, ça mène nulle part. Alors, on va dire, oui, une langue, c'est un système distinct. Puis il y a quelque chose de, au moins au point de vue psychologique, au point de vue cognitif, c'est très clair que la langue maternelle d'un individu, ça inclut toute la connaissance qui est nécessaire pour parler cette langue-là. Donc, ça, c'est un système distinct. Ça change. Mais en même temps, les bases restent les mêmes. T'sais. Il y a des emprunts qui viennent de d'autres choses. Mais si je parle anglais, français et bambanan, ben, je distingue ces trois langues-là. C'est pas trop difficile pour moi. Mais un concept qui est plus intéressant pour distinguer des groupes en fonction de leur langue, c'est en parler de communauté linguistique. Communauté linguistique est déterminée non pas par quelle langue ils parlent, mais par les attitudes que les membres de la communauté ont par rapport au langage, mais même à la communication en général. Alors, ça peut même comprendre la gestuelle. Ça peut même comprendre la gestuelle ou même la proxémique, donc d'être plus proche ou moins proche. Il y a des communautés linguistiques qui sont assez identifiables parce que les gens ont tendance à avoir les mêmes comportements. Il y a des différences individuelles, mais ils ont tendance à avoir un petit peu les mêmes comportements, par exemple sur la gestuelle. J'ai tendance à avoir une gestuelle assez active, ce qui n'est pas le cas de la plupart des anglophones. OK? Mais des anglophones québécois ont peut-être aussi une gestuelle active par influence de... Dans mon cas, c'est peut-être une influence européenne, je ne sais pas. Mais des trucs comme ça. Ça peut être sur la communication en général, mais au moins sur le langage. Alors, entre autres, à quel moment on utilise quelle variété de langue? qu'est-ce qui est considéré comme la langue polie et qu'est-ce qui est considéré comme une langue plus vulgaire ou ainsi de suite. À quel moment on doit utiliser une langue littéraire? Puis, ces différences-là sont très, très, très subtiles, sont extrêmement difficiles à comprendre dans une langue seconde. C'est finalement les adolescents qui acquièrent cette compétence-là, en fait, de pouvoir distinguer des variantes contextuelles, en fait, des variétés contextuelles, de savoir que, puis je fais un peu exprès, j'utilise certains mots vulgaires, mais que normalement, on ne dit pas « tabarnak » pendant une conférence. Bien, pour savoir ça, il faut normalement, un enfant va peut-être se le faire dire, mais en même temps, jusqu'où ça va? Tu sais, ça peut être dans une conférence, mais c'est une conférence où on parle du langage, est-ce que c'est encore correct? Hey, tu l'as dit! Oui, mais c'est parce que c'était correct, c'est parce que je citais quelqu'un d'autre. Puis, c'est vraiment à l'adolescence que ça s'installe. Bien, ces variétés-là, comme dans différents contextes, on utilise pas différentes langues, mais différents codes, différentes façons de parler, bien, c'est ce qu'on appelle des registres. Le dialecte, c'est la variété contextuelle. Le dialecte, c'est la variété régionale. Le registre, bien, c'est à l'intérieur d'un même dialecte, si on veut, ou à l'intérieur d'une même région, puis en fait, à l'intérieur d'une même communauté linguistique, d'un même groupe, c'est la variété contextuelle. Le type langagier qu'on utilise en classe, il n'est pas la même chose, en général, que le type langagier qu'on utilise dans un bar. Je suis brasseur maison, donc ça m'intéresse beaucoup. Mais je veux dire, quand je suis dans un bar avec mes amis, je ne leur parle pas exactement de la même façon que je vous parle maintenant. Même si je fais exprès d'avoir un langage très informel, d'avoir une parole très informelle, pour moi c'est très important pour toutes sortes de raisons. Mais pour saisir ces subtilités-là, il faut avoir une connaissance très intime, non seulement du langage lui-même, mais des critères sociaux d'utilisation du langage. Donc, d'utiliser une langue très châtiée dans un bar, ça peut être correct, mais ça cause des effets qui sont des fois assez négatifs. Si quelqu'un parle comme Bernard de Rome pendant qu'il est en train de regarder une partie de hockey, ou en fait, quelqu'un qui parle comme René Lecavalier, c'est un vieil exemple, mais quand même, comme René Lecavalier en regardant une partie de hockey, ça fit, ça va encore, ça joue encore. Mais il y a quelque chose de bizarre. Ça fait comme l'ironie ou ça fait comme « Hey, c'est pas toi, ça! » Ou René Lecavalier qui prend une bière avec ses amis qui parlent de hockey, je pense pas qu'il dit « Hey, il a fait la passe! » Non. Donc, cette question-là de contexte est très importante pour l'ensemble de l'anthropologie linguistique. Je vais finir avec cette catégorie-là. Je me rappelle pas exactement ce qui me manque. Non, pas grand-chose, juste les contacts linguistiques. Je suis désolé de ne pas pouvoir passer du temps là-dessus, mais c'est difficile de savoir combien de temps ça prend. L'ethnographie de la communication, c'est donc Delhimes et John Gumpertz, surtout, qui ont bâti ça par réaction à la linguistique de Chomsky, de dire, OK, on a une langue dans notre tête qu'on utilise, mais on l'utilise dans des contextes particuliers. Puis oui, on a une compétence linguistique, OK, c'est intéressant, c'est important, mais on a aussi une compétence communicative. On a non seulement nos règles de grammaire en tête, même si elle n'est pas écrite. Là. La grammaire du Bamana, en fait, elle a été écrite depuis, mais les gens parlaient Bamana en obéissant à des règles assez strictes, en fait, et très régulières depuis très longtemps. Puis, en fait, le Bamana est plus régulier que le français à bien des égards. Mais il y a cette compétence-là, linguistique, de dire, bien, pour faire une phrase en Bamana, tu t'alignes sujet, objet, verbe. Ça, c'est une règle de base. Bien, en français, non, tu ne peux pas dire « je, pas, mange ». En Bamana, c'est ça. On a cette compétence-là. On a aussi la compétence communicative, justement, de dire, bien, la règle, tu utilises tel registre, telle variété contextuelle de ta langue dans tel contexte. Ça, c'est une connaissance qui est très importante culturellement. Et on étudie plus, non pas la compétence, qu'est-ce qu'on a dans la tête, mais en fait, on étudie la performance des gens. Comment les gens utilisent leur langue, qu'est-ce qu'ils font avec, puis qu'est-ce qu'ils font comme communication. Donc, à ce moment-là, c'est tout lié au contexte. Et puis, je vous laisse là-dessus. Si vous êtes intéressé par certaines de ces questions-là, n'hésitez pas à m'écrire enkreli, c'est sur la première page, là, sur gmail.com, ou d'aller voir cette petite page-là.